Une façon de critiquer les autorités de transition. Elles se maintiennent au pouvoir sans élection depuis le coup d'état militaire en 2020.
Sur la vidéo, on voit un monsieur avec un cagoule et des lunettes. Il a peur des représailles, donc il préfère ne pas montrer son visage.
Alors, face au mécontentement général, les comptes pro-pouvoir tentent des explications.
Pourquoi autant de coupures d'électricité au Mali ?
Mais ces vidéos passent sous silence une partie du problème. La vétusté des infrastructures et la mauvaise gestion de l'entreprise publique.
C'est une catastrophe totale.
EDM, qui devient sur les réseaux un personnage à part entière. Qu'on blâme, évidemment.
Comme si on parlait de quelqu'un qui ne fait jamais du bien. On les critique tout le temps, c'est le monopole de tous les problèmes. Voilà.
On retrouvera Mustapha dans un prochain épisode. Y a quoi sur tes réseaux ? On vous dit à la semaine prochaine.
Merci Coralie Piret et à la semaine prochaine. 6h54 ici à Paris. Dans quelques minutes, vous retrouvez Clotilde Dumay pour le début d'RFI Matin. Avant cela, 100% création avec l'artiste céramiste Claire Briand. Maria Afonso lui a tendu son micro.
La création, c'est une voix. Parfois, c'est difficile de l'apprivoiser. J'aime à m'asseoir et à me taire et à contempler les choses et attendre qu'elles viennent à moi. Et il y a d'autres fois, elles me submergent.
Claire Briand, artiste céramiste.
L'atelier nous accapare. On se retrouve face à nous-mêmes. Ce chemin d'introspection, il s'inscrit dans le quotidien. Autant nos émotions nous appartiennent, autant il y a toujours une part d'elle qui est collective. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ce moment où je disparais pour appartenir à tous.
Initialement conteuse et guide conférencière, sa vie bascule en 2005 lors d'un séjour aux États-Unis où elle découvre la céramique. La terre devient son langage, sa façon d'être au monde. Autodidacte, elle crée son atelier en 2010, privilégiant une approche intuitive, organique et respectueuse de la terre. La collecte de matériaux naturels, puis l'assemblage de ces matières, lui permettent de réaliser une pièce unique qui est le reflet d'une nature qui elle-même évolue.
Dans la nature même, les filons changent. J'avais par exemple un filon dans une vieille carrière abandonnée en plein milieu de la forêt de Brocéliande. Il fallait marcher pendant une heure et revenir avec son sac plein. Un jour, il y a eu un énorme orage et l'éclair est tombé là où j'allais chercher ma terre. Et le pan s'est effondré et le filon est désormais disparu. Donc j'ai gardé précieusement les derniers grammes jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. On est dans ce mouvement du vivant tout le temps.
Déçue par ses cuissons au gaz, un processus rigide et désincarné, Claire Briand pratique la cuisson au feu de bois en construisant un four expérimental. Après avoir cuit seule pendant 5 ans, elle rencontre Cyril Denry, maître d'art céramiste, avec qui elle construit un four à bois pour des cuissons à deux.
Pour moi qui n'ai jamais eu aucune velléité de propriété ni de sédentarisme, c'est compliqué d'imaginer de construire un four à bois de cette ampleur. Et lui, par contre, il avait déjà organisé sa vie dans ce sens-là. Il lui manquait le binôme. Donc on s'était bien trouvés. Quand les pièces sont sorties du four, on identifie très clairement nos deux travaux. Et en même temps, elles exposent une sensibilité commune. Parce qu'il ne s'agit pas de faire du feu, il s'agit de cuire des poteries. Et nos poteries sont conçues pour aller dans un four avec un protocole particulier en fonction de ce qu'on veut essayer.
Découvrez l'univers de Claire Briand en podcast sur RFI.fr, chronique 100% création, sur RFI Pure Radio et en images sur les réseaux sociaux.
Merci Maria Afonso, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique 100% création dans quelques minutes, comme promis le début d'RFI Matin. Avant cela, une petite pause musicale sur RFI. C'est en playlist ce mois-ci, ça s'appelle Giro et c'est signé Lovana.
Na tu ye hika.
la malgache Lovana, l'un des talents RFI. Son morceau Giro est à retrouver ce mois-ci dans la playlist de la radio du monde. Et c'est ainsi que se referme cette deuxième édition d'Afrique Matin. Merci à vous, chers auditeurs. Merci également à Thierry Le Saint, à la réalisation, à Céline Pellarin, à la rédaction en chef. Dans 30 secondes, sur la radio du monde, le début d'RFI Matin.
Ce dimanche, retrouvez à 18h40 TU Jean-François Cadet.
Maltraitance, viol, drogue, prostitution, François Créton a tout subi ou presque. Avec la complicité et la mise en scène de Marie Desgranges, il présente un spectacle choc au Théâtre de Belleville. Défoncé, c'est le titre. Un témoignage brut, punk et rock sur les violences, les addictions et la reconstruction.
L'art de...
L'ours et la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Alors cette semaine, j'ai envie de vous présenter quelqu'un. Ce quelqu'un s'appelle Julien Louchard, bonjour.
Bonjour, enchanté.
Alors Julien, vous ne le connaissez pas, c'est pas quelqu'un qu'on voit dans les médias, c'est ce qu'on aime nous en général à l'ours et à la carotte. Et c'est ces personnes qui nous parlent d'écologie, qui font pas forcément les plateaux, mais qui ont des choses à dire. Julien, tu travailles pour l'Office international de l'eau, qui est une grosse association française et internationale, sur cette question de l'eau, cette question qui est cruciale, cette question qui suscite des passions folles, surtout quand il en manque, qui a une importance cruciale, parce que les choses sont ce qu'elles sont, mais le changement climatique met son petit grain de sel là-dedans et complexifie encore plus cet avenir qui se dessine. Les gens ne le connaissent pas forcément, donc j'ai envie de te demander d'abord de nous présenter ta mission et ta mission au sein de l'Office international de l'eau et nous dire ce qu'est l'Office international de l'eau.
Je travaille à l'Office international de l'eau où j'agis parfois en tant que conférencier sur toute la partie de développement des activités de notre association. Donc ça peut être la participation à des colloques, à des salons, à l'organisation d'événements. Au niveau donc des activités de notre association, on forme les professionnels du monde de l'eau, on fournit de la donnée, tout ce qui est données environnementales, données eau, on fait également de l'appui technique, institutionnelle et tous les enjeux de gouvernance. Et depuis 2022, on a un agrément protection de l'environnement d'une part et d'autre part sur le challenge de la formation des élus. Et je pense qu'il y a de nombreux élus qui ont besoin de compétences et de monter en sensibilisation et en formation, puisque les élections, c'était il y a très très peu de temps pour un mandat qui se veut absolument essentiel, indispensable pour accélérer les projets en cours ou s'il n'y a pas de gros projets structurants, de pouvoir les démarrer.
Alors de quoi on parle ? On parle avec toi, on ne parle pas de n'importe quelle eau, on parle de l'eau douce. Combien représente cette eau liquide dans le monde ?
On a une jolie planète, la Terre bleue, la planète bleue. Mais en fait, sur l'intégralité de l'eau, on n'a que 3% d'eau non salée, ce qu'on appelle de l'eau douce. Et sur ces 3% d'eau douce, on a plus que 1% qui est de l'eau douce liquide. Et si on va un petit peu plus loin, l'eau douce liquide facilement accessible, c'est-à-dire au niveau des rivières, ne représente qu'une toute petite partie de l'eau. Alors j'aime bien l'imager, vous prenez une piscine olympique de 2500 mètres cubes et vous prenez un seau de 4 ou 5 litres et c'est à peu près dans ce seau de 4-5 litres la quantité d'eau de rivière par rapport à l'intégralité de l'eau sur la planète.
Ces prélèvements en France, alors là aussi, il y a souvent des grandes passions autour de qui prélève, qui est le plus gros méchant par rapport à l'eau, qui doit changer, surtout pas moi, plutôt l'autre. C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein, on a envie de dire non, c'est à côté, plutôt que changer soi-même. Alors, il y a une différence que tu présentes, toi, entre prélèvement et consommation. Et ça, j'ai trouvé ça très pertinent. Raconte-nous.
Alors c'est vrai qu'on le voit notamment lors des débats publics, les acteurs de l'eau parfois et volontairement ne vont pas employer les mêmes mots, et il y a une distinction forte à faire entre prélèvement et consommation. C'est-à-dire que quand vous prélevez, le verbe prélever, hein, je prends de l'eau, mais par contre vous pouvez prélever, utiliser et rejeter immédiatement après dans le même milieu cette eau. C'est-à-dire qu'en fait, vous prélevez, mais il n'y a pas de conséquences quantitatives sur la ressource en eau. La consommation, c'est très différent. Ça veut dire que vous prélevez et vous ne restituez pas, puisque vous la consommez, vous ne restituez pas l'eau au milieu dans lequel elle a été prélevée. Ce qui fait que là, il y a un impact sur la quantité d'eau.
C'est-à-dire que le plus gros préleveur, c'est le refroidissement de nos centrales nucléaires, mais c'est un petit consommateur puisqu'il restitue l'eau un peu plus chaude. Il y en a un petit peu qui part en fumée, on voit, c'est en dessus, c'est de ces cheminées, donc de la vapeur d'eau, mais sinon elle repart un peu plus chaude dans les rivières, ce qui pose par ailleurs des problèmes, hein, qui peut en poser d'ailleurs à l'avenir dans des périodes de sécheresse. Le nucléaire peut aussi devenir une énergie intermittente. L'agriculture, à l'inverse, est le plus petit consommateur, un des plus petits préleveurs, mais en revanche, il consomme beaucoup de cette eau puisque c'est pour produire de la viande ou de la matière végétale.
Exactement. Les centrales nucléaires vont prélever pour se refroidir des quantités astronomiques d'eau et les rejeter avec un delta de température. C'était pas si problématique il y a quelques années, puisque les centrales nucléaires étaient en plein régime, particulièrement l'hiver. Ça devient problématique au moment des températures élevées estivales, puisque il y a une généralisation de l'usage de la climatisation, ce qui fait que les centrales vont fonctionner aussi bien maintenant à plein régime l'été que l'hiver. Et ça peut poser un vrai problème, puisque rejeter une eau à plus 4 ou 5 degrés en plein été, ça peut complètement modifier l'écosystème de la rivière, la potabilisation de l'eau. Et donc il y a quand même une vraie question sur le développement du nucléaire, particulièrement l'été, avec des centrales qui pourraient être limitées, voire arrêtées. Et ça s'est d'ailleurs déjà vu. Par contre, et c'est très juste, elles ne consomment, et heureusement d'ailleurs, que peu d'eau. À l'inverse, le monde agricole est un préleveur très, très raisonnable d'eau. Par contre, quand il prélève, c'est majoritairement l'été et il ne restitue que très peu à l'endroit où il a prélevé. Ça va être pour l'abreuvement des bêtes, ça va être pour l'irrigation des cultures. Et quand vous irriguez une culture, il y a un transfert d'eau liquide vers l'atmosphère. Il y a la consommation d'eau, ce qui est l'usage souhaité par les plantes qui vont ensuite évapotranspirer, mais il y a très peu de cette eau qui revient en fait au niveau du lieu de prélèvement. Et donc si on analyse à l'échelle d'un sous-bassin hydrographique entre juillet, août et septembre, il y a certaines zones en France où la consommation d'eau est en très grande majorité liée au monde agricole.
Quelles sont les projections? Alors là, on va se recentrer peut-être sur la France. Il va pleuvoir moins. Qu'est-ce qui va se passer?
On a la chance d'avoir aujourd'hui de la connaissance. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire il y a le réchauffement climatique et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé et dans combien de temps. On a des outils récents, comme une des 53 mesures du plan eau, qui est la mesure intitulée Explore 2, qui est un projet qui a été mené donc par l'Office international de l'eau que je représente, Météo France et l'INRAE. Et en fait, on s'aperçoit que la quantité d'eau globalement va être à peu près identique sur l'année. Mais c'est sa répartition qui est radicalement différente et qui va... Par contre, il faut vraiment, et c'est tout l'intérêt de cet outil Explore 2, c'est que c'est très variable d'une région à une autre, et c'est même beaucoup plus précis que ça, puisqu'il y a des indications sur des échelles qui sont plutôt d'échelle communauté de communes. Et en fait, on s'aperçoit que globalement, il y a autant d'eau à peu près qui va pleuvoir dans les années qui viennent qu'aujourd'hui, mais avec des pluies très fortes qui vont favoriser du ruissellement et des risques d'inondation. Et entre ces pluies fortes, il peut y avoir des périodes longues sans pluie et qui vont amener des sécheresses. C'est particulièrement gênant pour plusieurs raisons. D'une part, l'inondation va provoquer des dégâts, bien sûr. D'autre part, les sécheresses vont réduire la capacité de prélèvement et de consommation des quatre grands acteurs qui prélèvent l'eau. Et d'autre part, il y a une réduction en fait de l'infiltration de l'eau dans les sols, et donc il y a un risque de diminution de la recharge des nappes, même avec cette même quantité qui pleut tous les ans, mais qui ne permettra plus de recharger les nappes. Et là, on est sur une situation qui, si on ne désimperméabilise pas les sols et on ne favorise pas cette infiltration, peuvent être dramatiques dans les années qui viennent.
Alors nous sommes de retour et toujours avec Julien Louchard, donc de l'Office international de l'eau. On a vu avec toi, Julien, donc ces problématiques d'eau douce, la différence qui sont les gros consommateurs, les gros préleveurs, les bouleversements qui vont arriver avec le changement climatique sur cette ressource dans les nappes phréatiques. À l'Office international de l'eau, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au-delà du bilan, au-delà de la prospective, vous étudiez aussi les solutions. La première pour vous, c'est quoi? C'est quoi la base des changements à opérer?
C'est la réglementation. C'est-à-dire que vous avez... on ne peut plus construire et désimperméabiliser massivement comme il fut un temps. Donc en fait, l'urbanisme a changé pour favoriser l'infiltration de l'eau et réduire les risques d'inondation dont on a parlé tout à l'heure. Et puis au niveau de la sécheresse, là, on parle d'un manque d'eau potentielle qui va réduire les capacités de prélèvement et de consommation des grands préleveurs d'eau douce liquide. Donc là, a été mise en place les restrictions qu'on retrouve sur un site qui s'appelle Vigi-Eau. Et tous les jours, il est actualisé et vous avez des restrictions. Alors, la restriction, heureusement, y est associée des exemples de sobriété. Et donc, je peux donner quelques exemples comme ça, mais le citoyen, en fonction de la quantité d'eau disponible là où il habite, il va pouvoir ou non arroser son jardin, faire le complément de sa piscine ou remplir sa piscine. Et tout va dépendre en fait de la situation locale de l'eau. Pour l'entreprise, ça peut être une restriction radicale qui va aller jusqu'à une interdiction partielle, voire totale, de ses prélèvements en eau. L'objectif de ces restrictions, c'est que le concitoyen ait toujours de l'eau à son robinet. Et pour la première fois, on est sur une décennie où certains villages, malheureusement, ont été en grande difficulté et donc il n'y avait plus d'eau au robinet et ils ont reçu de l'eau potable par citerne.
Donc en fait, il y a tout un système à changer. C'est ça que vous préconisez, vous, en plus de cette restriction qui est brutale, qui arrive juste quand on manque, mais qui ne prévient pas le manque.
La restriction, elle est subie et elle apporte des contraintes et même des risques de viabilité, de pérennité pour les entreprises, pour le monde agricole qui se voit en difficulté ou en interdiction de pouvoir abreuver ses bêtes ou irriguer ses cultures. Donc en fait, il faut anticiper et trouver des solutions. Alors, il y a donc deux grands sujets avec le réchauffement climatique. On a dit les inondations. Donc, il faut absolument favoriser ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, les zones humides, les espaces éponges. C'est-à-dire que comment peut-on, au niveau de l'urbanisme, au niveau des choix fonciers, favoriser l'infiltration de l'eau pour alimenter les nappes phréatiques et réduire le plus possible tout risque d'inondation. Et donc ça, c'est des solutions...
C'est-à-dire que plus que jamais, en fait, on a tendance à les détruire pour certains projets. Les zones humides, il n'est même pas question de les sauver, il faudrait presque en recréer.
Tout à fait. Les zones humides, faudrait les sacraliser. Elles ont cette capacité d'éponge. Elles ont aussi d'autres atouts liés à un formidable écosystème. Donc c'est la biodiversité. Et puis ce sont aussi des puits carbone. Et rappelons-le, ce sont les gaz à effet de serre qui sont à la source de ce déséquilibre de l'eau. Donc les zones humides doivent, tant que possible, être favorisé, démultiplié sur le territoire. Et puis, à chaque fois qu'il y a un aménagement urbain, il faut avant tout favoriser des médias perméables que ce soit un parking, des trottoirs, de l'aménagement de ronds-points. Comment faire pour que l'eau s'infiltre et surtout n'aille pas engendrer des dégâts parce que c'est la double peine. Je n'alimente pas une nappe phréatique d'une part et d'autre part, je favorise le dégât en aval. Et par contre, on va indiquer, oui, mais c'est potentiellement ou réellement beaucoup plus cher. Certes, mais si dans votre taux de retour sur investissement ou dans votre business plan, vous prenez l'impact d'une nappe phréatique vide et l'impact d'une inondation, donc tout dépend en fait des hypothèses que l'on met, c'est un investissement qui est extrêmement logique, qui devrait presque être obligatoire et de rendre perméable que ce qui techniquement ne peut et ne doit être perméable.
Et on va avoir des épisodes de plus en plus violents, des crues, des hausses des rivières brutaux, tout ça allant vers la mer, comme beaucoup disent, ou causant des problèmes d'ailleurs d'inondations qui pourraient être résorbés par des retenues. Les retenues d'eau, pour vous, c'est une solution? Est-ce que les méga-bassines, les retenues collinaires, est-ce que ce sont des solutions ou pas?
Alors, c'est un sujet complexe. Et malheureusement, on est très souvent limité dans le débat. C'est évidemment une solution à étudier. Et l'étude doit montrer si c'est une solution viable ou si c'est malheureusement pour le territoire une mauvaise solution. Si vous prélevez dans une nappe phréatique en plein hiver, que cette nappe phréatique, il y a une connaissance très partielle de sa volumétrie, de ses conditions de remplissage, de sa superficie, et bien là il y a un risque. Puisque vous allez prélever dans une nappe phréatique avec une connaissance totalement imparfaite pour stocker des gros volumes qui, on le sait, vont en partie s'évaporer et avec une qualité qui va se dégrader. À l'inverse, si vous stockez de l'eau de pluie d'une toiture, ça peut être tout à fait pertinent pour ensuite la réutiliser.